Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'était un mercredi, c'était il y a 5 ans, deux terroristes armés de fusils d'assaut faisaient irruption dans la rédaction de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo et tuaient 12 personnes. Quelques jours plus tard, des millions de personnes étaient dans les rues pour défendre la liberté d'expression derrière des pancartes « Je suis Charlie ». Quelques jours après, les terroristes étaient abattus et Charlie Hebdo reparaissait porté par un élan de solidarité. Aujourd'hui, le journal est toujours là. Il a même gagné des abonnés, mais selon la nouvelle équipe, son combat pour la caricature et la laïcité reste difficile. 5 ans après l'attentat de Charlie Hebdo, où en est la liberté d'expression? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Lauren Gay, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate spécialisée du droit de la presse au sein du cabinet Malka Associés. C'est le cabinet qui défend Charlie Hebdo depuis de très nombreuses années. Et CAC, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dessinateur dans le quotidien L'Opinion et président de Cartooning for Peace. Lauren Gay, 5 ans après, je pense qu'on a dû vous poser la question toute la journée, je vous la pose quand même. Comment va Charlie? Comment vit Charlie?
Charlie est une rédaction qui vit toujours, mais qui vit dans des conditions très particulières, puisque c'est une rédaction qui vit dans un environnement ultra sécurisé, dans des locaux qui sont bunkérisés, qui sont inconnus du grand public. C'est quand même le seul journal de France dans lequel ne figure pas l'adresse du journal.
Ça veut dire que si on écrit à Charlie, c'est une boîte postale, c'est ça?
Exactement. C'est une rédaction qui vit sous protection policière en permanence. Alors, la question de la protection est une question prégnante parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est le journal qui assume cette protection. Ils sont obligés de l'assumer, de l'avoir, mais ils sont obligés aussi de l'assumer financièrement,
ce qui a
un coût. C'est un coût énorme. Un numéro sur deux, je crois, sert à financer cette protection. Et pour la première fois cette année, le journal a obtenu une subvention publique pour participer à cette protection. Et par ailleurs, au-delà de la surveillance des locaux et de cette protection assumée par Charlie Hebdo, de nombreux journalistes sont aujourd'hui encore et toujours sous la protection de policiers spécialisés. Et ça, 24 heures sur 24, c'est le cas notamment de Rhys, le directeur de la publication.
CAC, quand vous entendez ça, je suppose que vous le saviez de toute façon déjà, mais qu'est-ce que ça vous inspire?
C'est complètement délirant parce que ils sont comme si Charlie était devenu le symbole des dessinateurs qui dérangent, sur lesquels toutes les mauvaises intentions on va dire des gens violents, enfin on voit de qui on parle très précisément, vont se concentrer, alors que vous avez des tas de dessinateurs qui, pas forcément toute l'année et toutes les semaines, mais vont faire des dessins qui peuvent déranger ici ou là, mais c'est sur eux que c'est concentré, ils sont devenus les symboles, c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut les soutenir, je pense, jusqu'au bout, constamment et sans s'arrêter, mais ils sont devenus les symboles, quelque part, du dessin de presse qui dérange.
Lauren Gay, est-ce qu'on a peur quand on travaille à Charlie Hebdo?
Elle existe forcément, cette peur, parce que aujourd'hui, Charlie, d'abord, il y a ce qui s'est passé il y a 5 ans. Il y a eu, avant ce qui s'est passé il y a 5 ans, il y a eu un incendie des locaux en 2011. Mais depuis les attentats, les menaces ne faiblissent pas. Et puis, c'est-à-dire que à la faveur de la publication d'une une qui va déplaire aux uns ou aux autres, le journal est régulièrement la cible de messages incitant à la violence, faisant l'apologie d'actes terroristes. Et donc, la rédaction régulièrement dépose des plaintes auprès de la police, auprès du procureur. Et la justice mène un vrai travail d'investigation pour identifier les auteurs de ces messages, parce que ces messages se développent énormément grâce aux réseaux sociaux, qui sont devenus un amplificateur de ces menaces. Et par ailleurs, ils ont généré dans le public un sentiment d'impunité totale. C'est-à-dire que les gens qui envoient ces messages sont des gens lambda, qui sont sur leur canapé, avec leur tablette, leur smartphone, qui voient sur un réseau social, sur Internet, une une de Charlie, journal qu'ils n'ont jamais lu. Et cette une va leur déplaire, et donc ils vont tweeter, publier sur Facebook un message appelant à la violence contre le journal ou incitant à la réitération des actes qui se sont passés il y a 5 ans. Donc c'est ça aujourd'hui la vie quasiment quotidienne de la rédaction de Charlie.
Cac, vous ne travaillez pas à Charlie, mais est-ce que vous ressentez cette pression des gens qui peuvent commenter votre travail sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez ce sentiment d'être sous surveillance ?
Constamment. Alors, vous avez bien fait de citer les réseaux sociaux parce que pour moi, c'est la nouvelle donne, c'est ça. C'est-à-dire qu'on vit dans un moment qui est extrêmement paradoxal. À la fois, la prise de parole publique, lorsqu'on est, je mets des guillemets, une institution, en tout cas une personne qui représente certains types d'intérêts, patron d'entreprise, homme politique, avocat, journaliste, on nous demande de plus en plus d'avoir une parole la plus policée possible. On corrige le vocabulaire. Alors, le politiquement correct, ça fait longtemps qu'on fait attention aux mots qu'on emploie. On dit plus malvoyant, on dit plus aveugle, on dit malvoyant, etc., etc. OK. Mais sauf que là, ça devient de plus en plus sévère. Il y a des tas, maintenant, de minorités, de communautés, etc. Il faut plus employer tel mot, faut employer tel mot, etc. Donc, à la fois, il y a cette demande d'une parole qui est de plus en plus policée, lissée, neutre. Et en même temps, ceux qui vont vous reprocher, et eux considèrent que vous avez dérapé, ceux qui vont vous le reprocher, alors eux, pour le coup, sont pas du tout bridés, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, c'est n'importe quoi. Non seulement insulte, il y a peut-être le minimum syndical, c'est l'insulte. Après, c'est menace, et ça peut aller jusqu'à des menaces extrêmement dangereuses, puisque après, comment faire le tri entre ceux qui disent ça sous un accès de colère, mais qui n'en pensent rien, ou ceux qui sont capables d'aller commettre des actes abominables? Bon courage.
Lorraine Gay, justement, vous nous parliez de plaintes qui sont déposées systématiquement. Ça va au bout. Est-ce qu'on retrouve ces gens qui sont pour la plupart du temps anonymes, je suppose?
Ouais, enfin
pas oui, forcément d'ailleurs.
Non, en général ils ont des pseudos, mais c'est là où je vous dis que la justice fait son travail, c'est-à-dire que le parquet, les magistrats prennent très au sérieux ce genre de menaces et mettent en œuvre toutes les procédures possibles pour identifier le plus de personnes possibles. Et donc moi qui suis avocate et qui initialement défendait Charlie devant la chambre de la presse à Paris pour des questions de diffamation, d'injures. Aujourd'hui, je me retrouve à aller plaider en France, que ce soit à Angers, à Amiens, à Paris, contre des particuliers qui ont été identifiés à raison des messages qu'ils ont envoyés dans un moment d'énervement, sous le coup de la colère, en ayant ce sentiment d'impunité totale. Et c'est assez frappant quand on est confronté à ce genre de personnes de voir qu'ils n'ont aucune idée en réalité de ce qu'ils font. Et moi, ce que j'explique souvent lorsque je vais plaider ces affaires, c'est que en fait, au début, il y a le verbe, et c'est le verbe qui arbre le bras des terroristes qui sont passés à l'acte. Le verbe légitime ces actions. Et c'est là où...
Les inspire aussi.
Les inspire, voilà. Et donc, il faut que les gens réalisent ça. Et c'est vrai que il y a une forme de travail un peu pédagogique. Quand je plaide, j'essaye de leur expliquer ça, de leur dire que, OK, sous le coup de la colère, on peut dire des choses qui peuvent un peu dépasser la pensée, mais il y a certaines limites à conserver. On ne peut pas tout dire.
Cac, est-ce que vous diriez, en fonction de ce que vous venez de nous dire il y a quelques instants, que la liberté d'expression, que ce soit dans le dessin ou dans l'écrit ou enfin dans la presse, est-ce qu'elle s'est réduite depuis 5 ans? Est-ce que vous vous sentez, vous, sous pression?
Il y a cette pression qui, pour moi, est essentiellement liée aux réseaux sociaux. Et ce qui m'inquiète, à la limite, c'est pas tellement le fait de constater que certains de nos concitoyens se permettent absolument tout, oralement en tout cas, sur les réseaux sociaux. Ce qui m'inquiète, ce sont plus les dommages collatéraux, c'est-à-dire les responsables, donc là je vais être un peu égoïste, particulièrement les responsables de presse qui sont en charge de programmer du dessin de presse, par exemple, dans leur titre, et qui vont faire ce que Patrick Chapat, grand dessinateur qui a été cité dans l'affaire du New York Times, appelle de la censure préventive. C'est-à-dire ils vont se dire, finalement, le dessinateur de presse, c'est une source d'emmerde potentiel. Donc, plutôt que de bien travailler avec lui pour faire en sorte que même si le dessin est polémique, on est capable d'argumenter, on sait pourquoi on l'a fait, je vais m'en débarrasser en amont. Ce qu'a fait le New York Times dans son édition internationale, vous vous en souvenez peut-être,
oui, c'était
un dessin est paru.
Au mois de juin 2019.
Ouais. Exactement. Un dessin est paru qu'ils avaient choisi eux-mêmes en plus dans un stock d'images, qui n'a même pas été fait pour le journal, pour le sujet. Il a été considéré comme antisémite par une horde déchaînée sur les réseaux sociaux. Et à partir de là, ils ont non seulement décidé de ne plus faire appel à des dessins d'agence, mais même de licencier leurs deux dessinateurs maison, qui étaient absolument pour rien dans cette affaire, des types hyper sérieux, hyper pro, Chapat et Heng, tout simplement pour faire de la censure préventive, c'est-à-dire de dire « je vais éliminer de mon journal tout ce qui finalement pourrait déclencher des polémiques ». Ça, c'est très inquiétant, Parce que c'est des décisions prises par des gens qui, quelque part, sont les symboles et les représentants de la liberté d'expression. Directeur de presse au New York Times International aux États-Unis, excusez-moi, en matière de liberté d'expression, normalement, ça se pose là.
Vous diriez, vous aussi, qu'il y a un danger d'autocensure, tout simplement, Lauren Gay ?
Oui, tout à fait. Il y a un article assez intéressant, enfin même très intéressant, dans le Charlie Hebdo qui est sorti
aujourd'hui. Lisez Charlie.
Tout à fait. De Lord aussi sur les lecteurs de sensibilité qui sont aujourd'hui, qui aujourd'hui travaillent aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils interviennent pour relire les manuscrits et les polisser à l'extrême, et ce qui finalement aboutit à une littérature totalement aseptisée, évidée de tout sujet polémique. Donc on est aujourd'hui face à cette situation où en fait on s'auto-censure pour ne pas heurter telle ou telle sensibilité. Et aujourd'hui en fait on s'interdit de s'exprimer librement pour ne pas heurter les sensibilités de telle communauté. Et finalement on a une forme de communautarisme qui gagne sur l'universalisme.
Il n'y a pas qu'à qu'il y a des, il y a des sujets sur lesquels vous hésitez aujourd'hui avant d'écrire et de dessiner en l'occurrence dans votre cas ?
Dans mon cas, c'est particulier. D'abord, bon, comme tout dessinateur, je m'adapte à la ligne de mon journal. Donc l'Opinion, un journal essentiellement politique, économique, international. Je n'ai pas moi-même un humour particulièrement corrosif, même si j'essaie d'attaquer de temps en temps. Et par ailleurs, je fais plusieurs propositions au journal. Il peut choisir parmi mes propositions. Donc comme ça, cela dit, de temps en temps, ils vont choisir le dessin le plus dur ou le plus saignant. On a traité l'affaire Matzneff la semaine dernière. Le dessin était assez croustillant. Bon, la problématique pour moi, je la ressens pas à titre personnel en permanence, elle est vraiment orientée sur ces réseaux sociaux, et je trouve en fait dans ces débats, je commence à me dire qu'on accorde une importance, à mon avis, démesurée aux polémiques qui naissent sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, je ne veux pas dire que toute polémique qui apparaît sur les réseaux sociaux est nulle et non avenue, il y en a certaines qui sont importantes, mais on a tendance à se focaliser sur elles comme si ça représentait nécessairement l'opinion publique de la région, du pays, du continent, voire même de la planète.
Alors c'est une petite fraction, c'est ce que vous voulez...
On ne sait pas. On ne sait pas. En réalité, vrai. Ça mériterait de se pencher beaucoup plus. C'est encore nouveau, mine de rien, tout ça. Ça ne remonte pas à très longtemps en arrière, les réseaux sociaux. Il faudrait qu'on se penche beaucoup plus attentivement, quand on est comme ça dans ces fameuses tempêtes de merde, les shitstorms, qu'on se penche plus attentivement sur on parle de combien de personnes, est-ce que ce sont vraiment des gens sincères, des individus qui s'expriment, est-ce qu'il n'y a pas des groupes de pression derrière? Ça arrive. Vous avez des groupes de pression qui ont plusieurs comptes et qui vont eux-mêmes générer la polémique, et vraiment prendre la décision, si on doit prendre une décision éventuellement de retirer un sujet ou s'excuser, la prendre sur une base réelle et pas juste parce que tout d'un coup, pendant 48 heures, Twitter s'affole.
Lauren Gay, est-ce qu'on hésite à Charlie avant de caricaturer sur des sujets religieux et en premier lieu sur Mahomet? On réfléchit peut-être à deux fois ou pas. Est-ce qu'on essaye justement d'éviter ça et de garder sa ligne?
Je crois que Charlie reste Charlie et ne s'interdit rien. Et c'est ce qui fait que ce journal existe toujours.
Cinq ans après, est-ce qu'il y a toujours des vocations? C'est une question que je me posais avant de préparer cette émission. Est-ce que l'attentat les a plutôt découragés ou voire peut-être encouragés? Il y a des jeunes qui arrivent dans le métier en disant « Moi, je veux pas qu'on reste comme ça et je veux dessiner ». Qu'est-ce que vous diriez là-dessus?
Il y a des jeunes qui rentrent dans le métier, ça c'est assez rassurant, parce que c'est effectivement un métier vieillissant. Moi-même, je ne suis dessinateur de presse à plein temps que depuis 6 ans, donc j'ai rencontré la communauté de mes confrères, on va dire progressivement, il y en a encore beaucoup que je n'ai pas rencontré. C'est vrai que c'est une population qui est vieillissante, population de manière surprenante, je n'ai pas complètement analysé pourquoi, qui est composée à 90% d'hommes, très peu de femmes dans le dessin de presse, c'est assez regrettable. Mais oui, vous avez des jeunes qui veulent en faire. Je ne dirais pas qu'ils sont motivés essentiellement par... le drame et les attentats et les massacres qui ont eu lieu il y a 5 ans, ils sont motivés parce que ça les intéresse. Ils ont compris ce que veut dire le dessin de presse. Le dessin de presse, c'est très puissant en réalité, en termes. C'est à la fois du journalisme, de l'humour et de l'art. Et c'est quelque part une manière de faire circuler une information en la synthétisant et en créant un décalage. Donc ça fait beaucoup de choses ensemble, un dessin de presse. Et ce qui est absolument fondamental, vous avez raison, je pense que Charlie continue de ne pas se brider, ils se sont jamais bridés, ils continuent de ne pas le faire, ils ont bien raison. Heureusement qu'on les a, parce qu'on est nombreux, par ailleurs, de l'autre côté, à avoir, comme je le disais dans mon cas, un humour qui est plus soft, qui est plus doux, etc. Mais heureusement qu'ils sont là, parce que si eux n'étaient pas là, nous, les rares fois où on va déborder, on va faire un truc qui est un peu plus hard et on va taper un peu plus fort, est-ce qu'on oserait encore ? Et ils servent, moi je trouve qu'ils servent d'exemple. C'est un phare allumé dans la nuit pour moi, Charlie.
Est-ce que... vos interlocuteurs en justice, Lauren Gay, ont conscience de ça? Est-ce qu'ils défendent ce droit à l'irrévérence? Alors je dis évidemment la justice est la même pour tout le monde, mais est-ce qu'il y a peut-être une sympathie particulière pour Charlie
ou... Vous parlez des magistrats ?
Oui, absolument.
Bah, les magistrats ont une position très claire, et ça depuis le procès. Enfin, je veux dire, concernant Charlie Hebdo, ils l'ont toujours jugé de la même manière. Enfin, je veux dire, quand Charlie était poursuivi par les associations catholiques pour les caricatures extrêmement nombreuses qu'ils ont fait sur le pape, le principe a toujours été celui de la défense de la satire et de la caricature. Alors, ce principe a été rappelé de manière extrêmement précise et forte au moment du procès des caricatures, que ce soit par le jugement du tribunal de grande instance de Paris et ensuite par l'arrêt de la cour d'appel de Paris, qui est venu rappeler que Charlie Hebdo était un journal satirique, que c'était l'essence de ce journal et que la satire et la caricature peuvent ne pas plaire, et après c'est au lecteur d'acheter ou pas Charlie, et voilà, enfin c'est le principe même, c'est l'essence de cet art. Et je rejoins CAC, c'est le dessin de presse, c'est un amplificateur, ça permet de faire passer des messages extrêmement forts de la manière la plus rapide, parce que c'est visuel, on n'a pas à lire un article et tout passe dans le dessin, donc c'est heureux que les magistrats protègent cette forme d'expression.
CAC.
Oui. Et puis soyons sérieux, les gens qui finalement nous reproche d'avoir rendu disponible, mis en ligne, publié, un contenu qui les heurte. Donc, si je suis leur logique, on va donc supprimer chaque contenu qui peut heurter chaque citoyen. Commencer la liste, elle est évidemment infinie, c'est quasiment l'intégralité des sujets dont on peut discuter, même des sujets qui ne sont pas particulièrement corrosifs. Donc, évidemment, c'est pas le chemin qu'il faut prendre. Il faut que les gens acceptent l'idée, en particulier maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, ils se baladent, ils zappent, ils vont d'un compte sur l'autre, des fois, on tombe sur des images qu'on n'avait pas envie de voir. Ça nous choque, ça nous dérange. Il faut accepter le fait que parfois on est dérangé par des contenus. Tant que ça reste dans le cadre de la loi qui déjà, je trouve, met beaucoup de bornes à la liberté d'expression en France, tant que c'est dans le cadre de cette loi, il faut l'accepter. Oui, de temps en temps, on se prend une baffe quand on navigue sur Internet. Ça arrive.
Qu'en est-il, Laurent Gay, du droit au blasphème ? Il n'y a pas de délit de blasphème en France.
Non, il n'existe plus.
Il n'existe plus, il n'existe pas. Il est toujours garanti. Au plan international, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des évolutions qui se sont faites depuis, Charlie ? Depuis les attentats ?
Alors, c'est vrai qu'en France, le blasphème n'existe plus, et que je dois dire que si effectivement les lois mettent beaucoup de limites, la justice, au contraire, est devenue la principale garante de la liberté d'expression, et on a une jurisprudence qui est extrêmement protectrice de cette liberté et qui est aujourd'hui finalement le seul rempart contre toutes les attaques. Alors au plan international, il y a des pays dans lesquels le délit de blasphème existe toujours.
Mais ça s'étend
Y compris en Europe. Je ne sais pas si ça s'étend. En tout cas, je ne suis pas sûre que ça recule. Mais en tout cas, en France, la jurisprudence européenne est également très protectrice de la liberté d'expression et très peu favorable au délit de blasphème.
CAC, vous diriez que le dessin de presse va comment aujourd'hui en France et peut-être même à l'international ? Vous êtes président de Cartooning for Peace, c'est une organisation internationale.
Économiquement, comme la presse, on va dire qu'il s'interroge. sur la liberté d'expression, bien, honnêtement. C'est-à-dire que là, on parle des cas où effectivement les réseaux sociaux s'enflamment. Et les exemples qu'on a donnés, les exemples qu'on a nous de journalistes qui ont carrément perdu leur poste, qui ont été licenciés, mis à l'écart à cause du contenu, c'était plutôt en Amérique du Nord pour l'instant, États-Unis, Canada. Je ne vous parle pas des pays où évidemment les gouvernements sont beaucoup plus durs. On a beaucoup de dessinateurs exilés. En France, pour l'instant, très clairement, on continue de pouvoir dessiner ce qu'on a envie de dessiner, avec un humour à la française, c'est-à-dire qui peut aller de choses plutôt raffinées, qui peut aller dans la gaudriole, qui peut évidemment être sur de la critique vraiment très dure, et je trouve qu'on n'a pas de limite, mais il faut pas s'endormir là-dessus. Il faut vraiment continuer à se battre chaque jour pour que ça reste vrai.
Merci CAC, merci à vous également Laurent Gay d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Fabrice Violet. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat sur les réseaux sociaux, dans le respect toujours, merci. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.